C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Mais là, je vais faire un édito, bon. Où je vais pas chialer en plus, MC et Catherine.
Sans mal dedans.
Exact, sans mal dedans. Sans acrimonie. Pourquoi? Parce que ben c'est jour de vote. C'est la 44e élection générale du Canada. Et je veux parler de ça. Je veux parler de l'élection. Moi, personnellement, mesdames et messieurs, j'ai souvent été cynique face aux élections. Pour plein de bonnes raisons. Par exemple, le fait que si tu habites à Westmount et que tu votes PQ ou Bloc québécois, mettons, ben on se contre pas d'histoire. Ton vote ne sert pas à grand-chose. Même affaire si tu habites le plateau Mont-Royal et que tu votes pour le Parti conservateur. D'habitude, on élit des gens qui sont à la gauche, au provincial et au fédéral. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Notre système uninominal à un tour fait en sorte que tous les votes sont comptés, mais tous les votes ne comptent pas forcément et nécessairement. Justin Trudeau avait promis de changer tout ça pour une forme de proportionnel en 2015. C'est pas arrivé. Donc, j'ai déjà été cynique face aux élections et tout ça, ben ça a pas mal changé. Ce cynisme-là, dans mon cas, avec Donald Trump. Pourquoi? Ben parce que pendant 4 ans, aux États-Unis, on a vu ce qui peut arriver dans une démocratie forte, une démocratie mature, qui est quasiment un modèle pour les autres démocraties dans le monde. Ben on a vu ce qui peut arriver quand la démocratie est pervertie, quand elle est minée de l'intérieur. Les années Trump, personnellement, m'ont fait réfléchir à cette chance-là qu'on prend pour acquise, celle de vivre dans une démocratie qui est solide. Parce qu'une démocratie, c'est plus que le droit de vote. Les Iraniens, ils ont le droit de vote. Les Russes ont le droit de vote. Il n'y a personne qui pense que l'Iran et la Russie, ce sont des modèles de démocratie. La démocratie, c'est quoi? Ben, c'est des citoyens qui peuvent critiquer le pouvoir sans craindre de se faire emprisonner. Même ceux qui crient à la dictature, MC et Catherine, même ceux-là, bizarrement, qui disent qu'on vit dans une dictature, ben, ils peuvent dormir tranquille la nuit sans penser que des gens habillés en noir vont aller les cueillir dans leur lit pour les mettre dans une prison sans nom et sans adresse. C'est quoi une démocratie? C'est une presse libre, c'est des tribunaux indépendants. C'est tout un écosystème de contre-pouvoir. Et surtout, pensez jamais dire ça de mon vivant, mais je le dis depuis les années Trump, la démocratie, ben, c'est fragile. Donc, c'est avec une perspective nouvelle que je suis allé voter aujourd'hui, avec, disons, le poids d'une certaine responsabilité aujourd'hui, que j'ai mis mon X dans l'urne. On se compare, on se console. Le Canada, c'est pas les États-Unis. Toute proportion gardée, si on se compare à nos voisins du Sud, notre machine électorale est indépendante, est autonome, à l'abri des pressions partisanes, et c'est une autre chose qu'on prend pour acquise. Quand je suis allé voter, il faisait beau, il faisait un gros soleil, l'atmosphère était à bonne humeur. Ça a été long aussi, 45 minutes avant d'entrer dans l'école où j'ai mis mon X sur un bulletin de vote. Mais une fois entré, je vous le dis, là, ça roulait rondement. Ça m'a pris quelques minutes, 2-3 minutes à peine pour faire mon X et sortir. On me signale, là, j'ai fait un appel à tous sur Twitter, on me signale qu'en des endroits, c'est très, très rapide. À d'autres places, ça peut prendre jusqu'à une heure. Ben, je veux en profiter pour remercier les travailleurs d'élection, tous les employés d'élection qui ont décidé de faire leur part pour rendre cet exercice simple, facile, convivial. Ça prend du monde comme vous pour que chaque élection soit juste et équitable. Merci. Merci encore. Ça a pris à peu près 50 minutes, puis je vous le dis, j'ai pas eu envie de fialer une seule fois. Vous allez me dire qu'il faisait beau, faisait soleil, faisait pas moins 25 un mois de janvier. Peut-être que mon expérience aurait été différente, mais peut-être pas aussi. J'ai toujours su que voter, c'était un privilège à l'échelle du monde. Hein? Quand on regarde les États où il n'y a pas de droit de vote, ou alors où il y a un droit de vote, mais qui change rien aux choses. Aujourd'hui, les Russes ont reporté au pouvoir Vladimir Poutine, lui ont donné une super majorité dans un pays où, quand t'es dans l'opposition, où tu te fais balancer du troisième étage, où tu te fais endormir au Polonium 237, où on t'envoie au goulag, il n'y a pas beaucoup d'opposition en Russie. Donc, écoutez, je ne sais pas qui va gagner cette 44e élection canadienne, mais je sais ceci. Si la tendance se maintient, ça va être une élection juste et équitable parce que c'est comme ça qu'on fait les choses ici. Et ça, c'est une chance immense de vivre dans un pays qui prend ça pour acquis. Même, et c'est une des beautés de cette démocratie-là, même quand vous militez et que vous votez pour un parti qui souhaiterait faire du Québec, par exemple, un pays indépendant. C'est pas une idée qui est hors la loi ici. C'est un indice de santé démocratique. Mais écoutez, ça a été une élection un peu bizarre. On s'est demandé à quoi ça a servi, cette élection-là. Il y a des gens qui me disaient sur Twitter aujourd'hui, écoutez, ça a coûté cher, ça a coûté 600 millions. C'est vrai, ça a coûté 600 millions. Mais écoutez, ça demeure un exercice qui n'a pas de prix. Alors, c'était juste ça, mon édito. Je ne vais pas chialer en ce début d'émission, en cette journée d'élection. Je vais juste rappeler ça, de dire, le souligner, on est vraiment, vraiment chanceux. On se croise les doigts pour que ce soit toujours le cas. Moi, en tout cas, ben, je me croise les doigts.
Patrick Lagacé en accéléré.
Ben écoutez, il y a une nouvelle étude qui est menée par des chercheurs, qui a été menée par des chercheurs du CHU Sainte-Justine, qui met en garde contre une forte consommation d'alcool dès la première semaine de grossesse. Vous savez, les spécialistes là, le disent depuis des années, c'est mieux que les femmes enceintes ne consomment pas d'alcool. Mais là, ce qui ressort de cette étude-là, c'est que dès la première semaine de grossesse, ben ça peut être un problème. On en parle avec Serge McGraw, il est chercheur au CHU Sainte-Justine et professeur au département d'obstétrique gynécologie de l'Université de Montréal. Professeur McGraw, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien, vous-même. Écoutez, j'espère que tout va bien de votre côté, mais vous avez découvert que ça va pas bien si on consomme dès la conception.
Exact. Nous, ce qu'on démontre, là, c'est vraiment que lorsque l'ovule est fécondé, même avant là, que donc l'embryon commence à se développer, avant qu'il s'implante ou qu'il s'attache dans l'utérus de la mère, l'embryon est composé d'un petit amas de cellules et notre étude démontre que la consommation élevée d'alcool pendant cette période va affecter l'embryon développement et va causer un nombre d'anomalies augmentantes là, dans le cerveau en développement. Donc, le cerveau va avoir beaucoup plus tendance à avoir des anomalies.
Donc, si je comprends bien, là, je me rappelle de mes cours de bio, professeur oui. McGraw, là, la première semaine, bien souvent, la mère ne sait pas qu'elle porte un embryon.
Et tout à fait, les tests, on peut pas détecter avec les tests qu'on a maintenant pour de grossesse. Et environ, c'est entre 40 et 50% des femmes là qui ne planifient même pas être enceintes. Donc, il y a des grossesses qui sont planifiées. Donc là, les mères peuvent ils peuvent faire attention à qu'est-ce qu'elles mangent ou à qu'est-ce qu'elles boivent. Mais comme je disais, environ la moitié des grossesses sont non planifiées. Donc, ça peut être inquiétant.
OK. Vous parlez là des effets néfastes d'une consommation excessive d'alcool durant la première semaine de grossesse, Serge McGraw. C'est quoi une consommation excessive?
Donc, nous, ce qu'on étudie là avec notre modèle préclinique, là, donc c'est un modèle de souris qu'on avait. Donc, c'est un modèle où est-ce que c'est ce qu'on appelle une consommation binge. Donc, qui est excessive pour une femme, c'est environ 5 consommations en dedans de 2 heures.
Donc, un verre de vin, on est correct.
Nous, notre étude portait pas sur un verre de vin. Notre étude portait sur vraiment une consommation excessive. Il y a d'autres études à travers le développement là, qui ont démontré avec des différentes doses, mais ça reste que il y a d'autres facteurs hein, que la boisson. Donc, chez la mère, par exemple, il y a l'âge, il y a la nutrition, il y a la génétique de la femme. Donc, c'est pour ça qu'on parle de ne pas boire du tout pour être certain qu'il y a rien qui va se passer. Mais oui.
Non, continue.
Mais ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, dans notre étude, là, il y a 20% des embryons qui montraient une anomalie au cerveau. Par contre, si on regarde au niveau moléculaire dans les embryons qui n'en avaient pas de malformation au cerveau, donc lorsqu'on regarde au niveau de la couche là, qui régule l'information des gènes, donc ce qu'on appelle l'épigénome, donc l'épigénome était dérégulé. Ça, ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on a ces petites perturbations-là au niveau de la régulation des gènes, pendant le développement, mais ce qui peut arriver, c'est qu'on va empêcher le cerveau de se développer à son plein potentiel. Donc, le fait de dire qu'il n'y a pas de dommages, ça prend des études sur de longues périodes parce que on peut avoir des petites malformations ou des petits dommages au niveau moléculaire, mais qui vont se refléter là, à partir là, du que ce soit au niveau de l'adolescence ou même plus tard dans le développement.
Les troubles qu'on peut soupçonner chez les enfants dont la mère aurait bu, disons, de façon excessive sans savoir oui. qu'elle était enceinte, on peut soupçonner que c'est quoi ces troubles-là?
Donc, il y a les troubles les plus sévères, là, ce qu'on appelle le syndrome d'alcoolisation fœtale, ça, c'est vraiment des déficits neurologiques souvent sévères, des problèmes de comportement, et aussi avec certains traits faciaux là, qui sont vraiment identifiables. Par contre, ce qu'on appelle le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale, ça, c'est un trouble qu'on appelle un trouble invisible. Donc, la plupart des enfants vont pas avoir de caractéristiques physiques, mais ils vont avoir, par exemple, des problèmes d'attention, de mémoire, de comportement, d'apprentissage. Donc, c'est très difficile d'avoir un diagnostic pour ça. Il faut une panoplie, là, que ce soit des médecins, des neurologues. Donc, il va avoir vraiment une étude approfondie avant qu'on est capable de déterminer que c'est vraiment un trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale au lieu d'être, par exemple, une autre maladie, là, où est-ce que des fois on a ce qu'on appelle là, des chevauchements au niveau certains de ces troubles-là.
Donc, votre conseil, c'est quoi?
Ben mon conseil, c'est pas de boire du tout, surtout si on s'attend d'avoir un enfant. Donc, l'important, c'est vraiment, c'est plate à dire, mais c'est toujours les mêmes choses. Hein. C'est bonne nutrition, exercice éviter la consommation d'alcool, de drogue et de cigarettes, parce qu'il peut avoir aussi là, des effets additionnels. Hein, si on, par exemple, si on consomme de l'alcool et on a une mauvaise nutrition et qu'on prend, par exemple, de la drogue, donc ça va être un effet qui va être encore plus amplifié.
OK, je vous amène sur un terrain connexe. Là, vous, on le mentionnait tantôt, 40% des grossesses n'étaient pas planifiées, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas désirées. Mais une femme qui découvre qu'elle est enceinte là, après quelques semaines, qui se souvient que après la conception, elle a pris, disons, une cuite solide, elle a pris une brosse, comme on dit à Québécois. Qu'est-ce que vous recommandez?
En réalité, ça, c'est très difficile à répondre, là, mais dans les études, ce qui est démontré, c'est que environ une femme sur 67 qui a pris vraiment là, une consommation excessive, donc il va avoir un bébé sur 67, d'après une étude là, de quelques années passées, qui vont démontrer des troubles sévères d'alcoolisation fœtale. Donc, ça ne veut pas dire que l'embryon va être nécessairement affecté à son plus haut niveau, mais il peut avoir un genre de range là, d'effet. Donc, l'impact il peut être à différents niveaux, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment d'études ou d'indications comment qu'on pourrait contrer. Ça, c'est des choses que nous, on espère étudier dans le labo et qu'on étudie également en parallèle, là, de voir est-ce qu'on est capable de contrer justement là, cet impact à l'alcool. Là.
Avec ce que vous savez, là, faisons un peu de... On va parler concrètement. Là, ce que vous savez, professeur McGraw, si une femme proche de vous allait vous voir et disait « Écoutez, j'ai vraiment viré une grosse brosse, là. » autour de la conception, est-ce que je devrais me faire avorter? C'est quoi votre réponse?
Ma réponse, ça va être de lui expliquer c'est quoi les faits, c'est qu'est-ce qu'on connaît, et peut-être l'accompagner dans sa décision, mais je peux pas prendre une décision pour elle. Là. C'est un peu le même principe des parents qui ont fait des tests génétiques et qui ont un enfant, par exemple, qui va être trisomique et qui décide de le garder ou bien d'arrêter la grossesse. Ça reste des choix personnels. Et c'est très difficile à ce niveau-là, ou même au niveau des parents, de prendre ce genre de décision-là.
OK, je vous amène sur un autre terrain, le connexe, professeur McGraw. Oui. Ça, c'est pour la consommation des mères. Parfait. Les pères, là, les pères qui prennent une brosse, puis ce soir-là, conçoivent un enfant avec leur conjointe, ou pas leur conjointe, est-ce que ça a un effet sur la qualité des spermatozoïdes, disons, le fait qu'on a pris une cuite?
Il y a beaucoup moins d'études au niveau de l'homme. Par contre, ce que l'on sait, parce que la problématique, ben c'est pas une problématique, mais par exemple, la production des spermatozoïdes chez l'homme, ça dure sur environ 74 jours. Donc, c'est le danger est surtout là pour les personnes ou les hommes qui ont des consommations chroniques d'alcool. Parce que là, tu vas avoir des micro-attaques ou des attaques là au niveau, justement, de leur production de spermatozoïdes. Et ce qui est démontré d'après les études, même chose, les études précliniques démontrent que les pères qui ont des consommations d'alcool chroniques vont avoir des problèmes au niveau du développement embryonnaire de leur bébé. Donc, c'est pas mieux. Pour les hommes qui s'attendent ou les couples qui s'attendent d'avoir des enfants, l'abstinence au niveau de l'alcool là, est à recommander pour les deux parents.
Donc, pour les gars aussi?
Oui, pour les gars aussi.
OK. Ben, écoutez, c'est un message aux hommes aussi. Là, l'alcool, la qualité, disons, du fœtus, des embryons, ça dépend aussi de vous. Je veux qu'on parle de vaccination. 30 secondes, je vous amène complètement ailleurs. Là. Vaccination, je sais qu'il y a eu des inquiétudes des résistants chez les femmes enceintes et aussi les femmes qui allaitent là, à se faire vacciner contre la COVID par peur qu'il puisse avoir des conséquences sur le bébé. En l'état actuel des choses, qu'est-ce que la science nous dit?
La science nous dit, pour l'instant, avec les études qui sont sorties, si la mère n'a pas de conditions qui l'empêchent elle-même d'avoir le vaccin, c'est beaucoup plus... le virus va être beaucoup plus susceptible à endommager, par exemple, le placenta que le vaccin. Donc, le vaccin, pour l'instant, est recommandé pour les femmes enceintes. Et même si je suis pas spécialiste sur le domaine, là, d'après ce que j'ai vu dans les études, il y a aucun problème là, si il n'y a pas de conditions particulières pour la mère.
Merci beaucoup, professeur McGraw. Bonne journée.
Merci, bonne journée.
Salut, c'était Serge McGraw, professeur et chercheur en obstétrique. Demain, tu seras parti. Tu seras. gala des Gémeaux dans la bienveillance, peut-être un peu mielleuse, les mecs,
j'ai
Catherine.
J'ai aimé que ta langue a fourché dans la bienveillance, et c'est exactement ça.
Bienveillance, c'est ce que je voulais dire.
Mais vieille, c'est bon aussi.
Ben oui, on entendait la chanson qui a ouvert le gala, qui s'appelle « Demain, il fera beau » d'Étienne Coppé. C'est une chanson qui avait conclu la série « M'entends-tu ?» Je suis pas certaine nécessairement que les téléspectateurs hier aient compris le sens de cette chanson-là pour ouvrir le gala. Moi, c'est drôle, j'aurais utilisé la même chanson pour terminer le gala. Mmh. Je trouve que c'était à partir avec quelque chose d'un peu triste.
Ben, excellente saison, mais c'est parce que si t'as pas vu la série, tu comprends pas. Puis si t'as vu la série... C'est pas la fête de la télé, là.
Non,
tu veux te pendre.
Absolument pas. Puis, écoute, le gala d'hier, moi, j'ai trouvé que... Je vais citer Christiane Pasquier dans l'émission Moi non plus, qu'on peut voir présentement sur Nouveau. Ça manquait de fizz. Ça manquait d'humour. Ça fait partie de l'ADN des Québécois, l'humour. On retrouve ça dans plusieurs événements, dans des galas. Hier, je pense qu'on aurait peut-être eu le goût de rire un peu. Ça veut pas dire d'être méchant. Ça veut pas dire de faire des jokes... incroyable, tu sais, sur les gens puis les blessés. Moi, ce que je pense, c'est qu'on aurait pu amener quelque chose d'un petit peu plus souriant, de faire de l'humour. Il y avait, même si on est en pandémie, je pense que les gens sont tannés d'être dans ce mode-là de pandémie. Fait qu'il faut donner de l'évasion, faut leur donner quelque chose de gai, de joyeux. Véronique Loutier a fait une job impeccable, j'ai rien à dire, mais c'était encore une fois dans la sobriété. On la connaît plus mordante. Elle est capable de l'année dernière, on était encore en pandémie, puis elle avait fait un numéro d'ouverture, puis ça avait été hyper agréable. Fait que moi, j'aurais aimé ça qu'on soit davantage audacieux, puis qu'on, justement, on dise aux gens, ben, on est capable d'avoir du fun. Tu sais, en direct de l'univers, on l'a chaque samedi. Pourquoi on n'est pas capable d'avoir du fun un dimanche soir? C'est galé des prix Gémeaux.
Pour ça, je suis à la même place que toi. Comme tu dis, Véro est toujours sur son X. Ils ont donné comme mandat de veiller le corps. Fait qu'elle a veillé le corps. On disait ça quand on était jeune. Tu sais, il y avait un corps dans le coin, puis on le veillait. Ça, c'était toujours un peu triste. Et là, on veillait le corps de la télévision. Fait que ce que j'avais l'impression, c'est que la télévision s'en allait, ça abomme, que ça achevait, qu'on était comme à des espèces de funérailles tranquilles. Et puis, en plus, on se tapait un peu sur la tête. Tu sais, à un moment donné, là, la COVID, on est au courant. On a eu une année difficile à la télévision. Mais guess what? Tout le monde qui nous écoute en a eu une aussi, une année difficile. Mm-hmm. Hey, on en revient-tu? Puis quand on veut oublier le soir, qu'est-ce qu'on fait? On prend un verre. Est-ce qu'on parle de la COVID? Néo, on regarde en avant où c'est qu'on s'en va. L'autre affaire, l'inclusion, la diversité, j'en suis... Je suis pour, c'est super, mais à l'acrobat, ça devient tannant.
Il y en avait beaucoup hier.
Présentateur de prix et fait partie d'une minorité, que ce soit sexuelle ou ethnique, c'est sympathique, mais je me mets à leur place et je voyais dans le visage de certaines personnes que je ne nommerai pas cette réaction-là. Est-ce qu'ils se disaient eux-mêmes, est-ce qu'ils ont été invités pour leurs compétences ou parce qu'ils font partie d'une minorité? Est-ce que les deux gars de L'Amour est dans le prix qui sont gays ont été invités parce qu'ils ont été bons à L'Amour est dans le prix, parce qu'on les aime ou parce qu'ils sont gays? Est-ce qu'il y a des animateurs? Et là, ce qui est vraiment troublant, et les Emmys ont le même débat en ce moment aux États-Unis, c'est ça va d'inviter des gens, mais remarquez les gens qui sont nommés et les gens qui gagnent. Ben, devinez quoi? Ils sont blancs.
Ils sont pas dans ces minorités-là.
Notre télé est très large. Fait comme pour s'excuser, durant 2h30 de tout ça, on dit, écoute, on s'excuse tout le monde, on va mettre une petite publicité avec Adib Al-Khalidi qui nous dit, moi, on m'a toujours proposé des rôles de terroristes, puis j'ai bien de la peine. Puis après ça, une autre publicité qui dit, bah, tu sais, la télévision est pas assez diversifiée. Puis après ça, on invite des gens. J'ai pas beaucoup ma place dans cette télévision-là. Mais là, arrêtons de le dire, passons à l'action et invitons tout ce monde à faire la fête. Tout le monde ensemble, et à mon avis, le jour où on va avoir réglé ces problèmes-là, ça sera plus des minorités, puis ça sera plus la diversité,
non,
ça sera
ça
plus
va être
l'inclusion.
La vie, tout simplement.
Ça va être la vie!
Exact.
Ça va être la télévision. Et quand je vois quelqu'un de trans dans une émission, je suis content, mais est-ce que on doit le souligner à très jour? Regarde, quelqu'un de trans. Non, parce qu'il fait partie de la même société que moi, il est égal à moi. Revenons-en.
Absolument. Hier aussi, il y avait un numéro où on présentait des artisans, des gens qui travaillent derrière la caméra. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu maladroit la façon dont c'est amené. Moi, j'ai une admiration sans borne pour ces gens-là qui travaillent, qui aident à faire des bons shows de télévision. Mais on présentait des artisans de la télé. Et là, whoops, quand on présentait le portrait, arrivait une grosse vedette qui allait voler le show de l'artisan. Puis la personne arrêtait de parler. Puis finalement, c'était la vedette qui parlait. J'ai trouvé que c'était comme un
peut-être qui, elle, est habituée à parler devant le Kodak.
Exactement, ouais. Qui arrivait en surprise, la personne n'était même pas au courant.
Comme si preneur de son allait être plate, tu sais.
Exactement.
Fait qu'on va y envoyer Marina, puis ça va être bubbly.
Mais moi, là, je me disais, j'ai envie de voir leur travail. Fait que si vous voulez vraiment leur rendre hommage pendant un gala qui est télévisé avec de la grosse cote d'écoute, ben montrez-nous leur travail.
Exact.
Montrez-nous leur vrai travail. Sinon, il y avait un gala des artisans vendredi passé, puis c'est là qu'ils auraient dû mettre les grosses vedettes pour leur donner la table dans le dos.
L'as-tu vu, ce gala-là?
Ben non, je l'ai pas vu parce que j'étais pas en nomination de nulle part. Fait que ça me tentait pas de regarder un gala comme ça. C'est souvent très ennuyant.
Cauchemar était le mot. Je le regardais sur Facebook. 270. On était 270 à le regarder parce que tous les bâtards d'artisans étaient à ce gala-là, puisque presque tout le monde est en nomination. Et là, je vous fais le dessin là-bas. Vous êtes dans une salle. Vous attendez dans un corridor d'escalier sur trois étages. Puis là, numéro 19! Numéro 19!
Il est pas là!
Numéro 19! Le numéro 19 descend, il arrive. Tu vois derrière un rideau. Le rideau ouvre. OK, qui c'est qui gagne? C'est toi, Lucien. Lucien content. Ferme le rideau d'en face, les autres. Puis les personnes qui étaient pas là, on avait mis un mannequin. La pire idée de l'histoire de la télévision, si quelqu'un est pas là, on met un mannequin. Tu sais, comme chez Simon, c'est un mannequin, mais pas de linge, là. Sans farce. Il y avait un mannequin féminin, un mannequin masculin. À ma grande surprise, il n'avait pas de nom genré, Calvas. Là, on l'a mis là. Puis là, c'était, des fois, c'était triste. Il y avait une personne, Christine Morancier, maintenant, était toute seule. Elle était là. Allô? Ça, c'est le gala de Sabzi. Puis il y avait des mannequins avec elle. Puis elle gagne pas. Fait que le rideau, il tombe d'en face. La personne n'est pas là. Et là, après, les gens, ils sortent dehors. C'est pas une image, là. Les gens, ils sortaient dehors. Ils se ramassaient dans la rue.
Il y a même des sacoches qui sont restées à l'intérieur, j'ai bien compris.
Oui. Une grosse vedette, pour ne pas la nommer, Marc Lavrèche, qui est avec sa copine et les amis de sa copine. Ils ont dit, garde nos sacoches, on va revenir. Ben, pauvre Marc, il s'est ramassé avec 6 sacoches. Un drink, puis ils n'ont jamais pu revenir parce qu'ils étaient pris dehors. Ça, tout le monde, c'est notre jet set. Je sais que l'Académie là, va m'en vouloir. Puis, tu gagnerais plus jamais de Gémeaux. Je m'en sac. Tout ça, je suis tanné. Arrêtons de faire de la boucane, justement, de bien-pensance, on va changer le monde. Non, tout le monde est invité. Et de faire quelque chose, c'est une fête de la télévision. Toute croche. Faites un vrai party pour les artisans, maudite merde. Faites-leur un vrai party pour les féliciter. Pas une patente à gosse où on les garoche dans la rue.
Avec des mannequins.
Je voulais absolument revenir sur un mini détail hier. La typo, le nom des catégories apparaissait en arrière des gens qui étaient en nomination, puis on n'était pas capable de la lire.
C'est
pas normal. Et les gens qui gagnaient comme des producteurs étaient pas nommés. Fait qu'il y a des gens qui allaient chercher des prix sur la scène, puis on regardait ça à la télé, puis moi, je sais c'est qui, parce que je connais l'industrie. Mais ma mère, elle, quand elle a vu Marlène Beaulieu aller chercher un prix, elle a dit, oh, moi, je suis une madame. Tu sais, elle sait pas c'est qui.
C'est
Marlène Beaulieu qui était jusqu'à récemment la patronne d'une des grandes boîtes
de
production.
Fait que nommez-la, s'il vous plaît.
Fait que gardez Véro, parce que ça, c'est un coup de cœur. Le reste. On passe le bulldozer là-dedans, appelez-nous, on va vous donner des idées.
En fait, on fait. Non, okay, je dirais pas ça.
Qu'est-ce que tu veux faire?
Non, j'allais dire une sottise.
Non, mais t'as une bonne idée pour vrai.
Taisez-vous.
En direct de l'univers.
Des Gémeaux.
Ça serait écœurant.
Merci, MC Gilles. Je sais pas, j'ai pas vu le gala, ça avait l'air plate, mais votre compte rendu était loin d'être plat.
Patrick Lagacé en accéléré.
On va aller maintenant à New York pour parler avec Catherine Loubier. Elle a été déléguée générale du Québec à New York pendant 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et elle a eu une main dans ce contrat de l'État de New York qui a choisi Hydro-Québec comme fournisseur d'énergie propre pour les 25 prochaines années. Ça a été aujourd'hui, c'est le plus important contrat d'exportation jamais conclu par Hydro-Québec. Madame Loubier, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Lagacé.
Ben, écoutez, d'abord, félicitations. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de jeux en coulisses quand vous étiez là pour convaincre les autorités de l'État de New York de prendre Hydro-Québec comme fournisseur.
Oui, absolument. Ben, d'abord, c'est un travail d'équipe, là. Il y a des gens qui ont travaillé sur ça avant moi. Madame Brochu, évidemment, là, la PDG d'Hydro-Québec, qui a conclu les dernières négociations. Mais effectivement, ça a été vraiment une opération pour convaincre et mettre en place les conditions gagnantes pour que ce genre de décision-là puisse aller de l'avant.
Écoutez, j'ai vu que c'est un contrat qui va s'échelonner sur 25 ans et j'ai vu, disons, l'étiquette plusieurs milliards. Qu'en est exactement là, le contrat vaut combien?
Mais je peux pas vous confirmer ça maintenant parce que il y a encore des négociations sur le prix. Mais je pense que et le premier ministre et d'autres intervenants ont quand même donné une brochette là. Évidemment de revenus là. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment ça change la donne pour le Québec. C'est extraordinaire pour la réduction de la pollution directement dans la ville de New York. On doit être fiers de ça. Donc, ça va faire une énorme différence pour au niveau de l'environnement, mais au niveau de la prospérité du Québec. Ça crée des emplois, des bons emplois, et ça en crée aussi chez nos amis du Conseil de Canada, de Canada-Sataké. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant des deux côtés de la frontière, on peut dire.
OK, mais ça n'a pas été simple, si je comprends bien, de convaincre les autorités de l'État de New York que l'hydroélectricité du Québec, c'est une énergie propre. C'est un peu surprenant d'entendre ça, parce qu'ici, on le sait, on s'en vante, on le revendique. Notre hydroélectricité, si on compare, disons, à des centrales de fabrication au charbon, au gaz, ben c'est vert. Quelles étaient les réticences à New York?
Oui, ben nous, c'est dans notre ADN, hein. Mais ici, à New York, quand je suis arrivée en poste, il y avait vraiment, il fallait aller s'expliquer, il fallait convaincre, il fallait aller expliquer que notre énergie est verte, comment elle est conçue, pourquoi on aspire à exporter cette énergie-là. Vraiment, qui est François Legault, qui est Sophie Brochu, qu'est-ce que c'est Hydro-Québec, comment on gère nos relations avec les Premières Nations, et qu'est-ce que c'est notre vision pour le futur? Il fallait aller s'expliquer et convaincre. Il fallait littéralement aller faire une campagne pour aller rencontrer toutes sortes de groupes de la société civile et des gouvernements, tant les syndicats que, évidemment, les groupes environnementaux qui ont certainement leur mot à dire dans ce genre de décision-là, les autorités étatiques et aussi de la ville de New York. Et il fallait régler deux, trois choses. D'abord, il fallait avoir assez plus d'appui que d'opposition, hein, pour que les politiciens, on puisse leur paver la voie pour annoncer ce genre de décision-là. Notre énergie n'était pas reconnue comme verte dans l'État de New York et il n'y avait pas beaucoup de soutien. Alors, il fallait renverser ça. Il fallait convaincre, il fallait prendre le temps de faire les tournées avec mes collègues d'Hydro-Québec également, puis les élus du gouvernement du Québec. Et il fallait aussi changer la réglementation à New York pour pouvoir être capable de soumettre une proposition lors d'un éventuel appel de proposition qui décide du budget d'énergie pour les 10, 20, 25 prochaines années à venir. Donc, c'était là tout le travail à réaliser et ne pas prendre non comme réponse et ne pas dire être fataliste par rapport à un obstacle comme le fait que la réglementation ne reconnaît pas notre énergie. On peut toujours changer les choses quand on y met du temps, de l'énergie et qu'on a un plan, qu'on est prêt à être patient et à faire les efforts nécessaires sur un an, deux ans, trois ans, c'est possible de le faire. Pourquoi? Parce que ça fait du sens. Ça fait du sens pour New York, puis ça fait du sens pour le Québec.
Catherine Loubier, je le rappelle, vous étiez la voix du Québec à New York pendant, j'ai dit deux ans tantôt, mais presque trois ans. Et vous avez travaillé là sur l'effort de pédagogie pour convaincre les autorités là-bas. Donnez-nous un exemple, justement, peut-être le plus grand effort de pédagogie que vous avez eu à faire avec vos interlocuteurs dans l'État de New York pour convaincre ces gens-là que notre énergie est verte.
Ouais, oh mon Dieu, on a fait, je pense, plus de 300 rencontres en quelques années. Je pense qu'il fallait, il fallait établir une relation de confiance au départ. Tu sais, si on parle d'un contrat de, là, je dirais pas de chiffres, là, mais disons qu'on reprend ce qui a été dit, là, 20 milliards de dollars. Ben, il faut passer du temps à se regarder dans le blanc des yeux puis à établir une relation de confiance quand on fait un contrat de cette envergure-là, hein. Et il fallait convaincre que les changements climatiques, là, ça n'a pas de frontières. Et que c'est urgent. Et donc, s'il y a une solution comme ça au Québec extraordinaire, hein, qui est un leg extraordinaire qu'on nous laisse pour les générations futures, eh bien, pourquoi pas s'en servir maintenant jusque dans la ville de New York, là où l'énergie propre, c'est pas possible de l'amener sans construire cette nouvelle ligne de transmission en partie souterraine jusqu'à New York. Donc, des exemples, c'est de confronter finalement certains groupes de la société civile, des même des groupes environnementaux, en disant ben donne-moi ta solution qui est la meilleure. Si t'en as une, donne-moi-la. Et si t'en as pas, ben écoute-moi, puis peut-être qu'on peut trouver un terrain d'entente. Puis au niveau des politiciens, ben c'est donner confiance aux politiciens qu'on va être des partenaires dans lesquels justement ils peuvent eux mettre leur confiance et qu'on va être main dans la main pour réaliser ces grands projets-là. Et que si ça brasse, si ça chauffe, on va être là aussi ensemble pour faire face à la musique, là. Et ça nous a pris beaucoup d'efforts. Puis je salue aussi le travail des Premières Nations du Québec qui ont, à plusieurs reprises, là, été dans les discussions pour essayer de... Parce que, bon, c'est pas évident non plus. Les politiciens, parfois, peuvent avoir peur que le dossier prenne une direction puis que ce soit un problème pour eux. Hein. Et donc, tout le monde, je pense, y a mis du bon sens. Tout le monde s'est dit, bon, ben, je les connais suffisamment, je leur fais confiance, allons-y, parce qu'on n'a pas de temps à perdre pour réduire la pollution le plus rapidement possible dans la ville de New York, parce que Hydro exporte depuis plus de 100 ans dans l'État de New York, mais pas dans le Sud, parce qu'il n'y a pas de moyen d'amener l'énergie jusqu'ici, d'où le besoin de construire cette nouvelle ligne-là de transmission là qui va contribuer à quelques 2000 emplois du côté de l'État de New York.
Dernière question, Mme Loubier. Est-ce que l'affaire est dans le sac ou il y a peut-être un processus réglementaire qui pourrait faire dérailler l'affaire?
Ben, l'affaire est dans le sac avec la nouvelle gouvernante qui est extrêmement dynamique, Mme O'Cole, elle l'a annoncé. Donc, on peut croire en sa parole. Maintenant, vous le savez, dans ces projets-là, tout n'est jamais fini tant que c'est fini. On va procéder à la finalisation des contrats du côté de Mme Brochu d'Hydro-Québec. Puis après ça, ben, il y a la construction de la ligne de transmission. Et quand ça se met à construire, ben là, c'est une autre série peut-être de problèmes, j'espère pas, là, mais de réactions dans les communautés tout au long de la rivière, de la construction, et pas avoir... C'est jamais terminé. C'est jamais terminé. Il faut toujours demeurer vigilant, convaincu, donner de l'information, ça a été extrêmement important, répondre aux questions, être là pour anticiper les obstacles qui pourraient se pointer jusqu'à ce que l'énergie puisse couler le long de cette merveilleuse autoroute verte-là. Je pense qu'on comprendra l'impact de cette autoroute verte-là entre Québec et New York là beaucoup plus tard. Je pense que ça sera énorme. Mais non, c'est pas fini tant que c'est pas fini.
Ben, merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça aujourd'hui, Mme Loubier. Bonne journée.
Ça me fait plaisir, au revoir.
Salut, c'était Catherine Loubier, l'ancienne déléguée générale du Québec à New York de février 2019 à la mi-août de cette année. Donc, vous l'avez entendu, il y a eu beaucoup d'efforts de pédagogie à faire dans la société civile et aussi auprès des autorités politiques et réglementaires à New York. Et ça a amené à ce contrat qui a été annoncé par Hydro-Québec aujourd'hui. Plusieurs milliards de dollars, période de 25 ans, sans doute à partir de 2025, le Québec qui va fournir une bonne partie des besoins en énergie de nos voisins new-yorkais.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.